c'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Charlotte Landru-Chandès.
Aujourd'hui, on vous parle du rapport de Prokofiev au piano à travers l'exemple de son concerto pour piano numéro 3 en Do majeur. Serge Prokofiev est l'auteur de 5 concertos pour piano, comme Beethoven, Saint-Saëns ou encore Anton Rubinstein. Les concertos de Prokofiev, en particulier les numéros 2, 3 et 5, comptent parmi les plus brillantes réussites du XXe siècle dans le genre, aux côtés de ceux de Ravel et de Bartok. Comme eux, Prokofiev est lui-même pianiste. Il étudie au conservatoire de Moscou dans la classe d'Anna Essipova. Elle lui apprend la rigueur technique et l'exigence. Pas étonnant que les concertos de Prokofiev soient si difficiles, ponctués de rythmes redoutables, de fulgurantes acrobaties et exigent un jeu si musclé et précis. Le concerto le plus réussi de Prokofiev, c'est certainement le numéro 3 en Do majeur. C'est lors de vacances en France, à Saint-Brévin-les-Pins, où il séjourne avec sa mère, que Prokofiev se lance dans la composition de l'œuvre. Pour cela, il ressort de ses cartons de vieilles ébauches écrites entre 1913 et 1918. Les journées sont réglées comme du papier à musique. Travail, partie d'échecs avec son ami Boris Vérine, baignade, collation, travail à nouveau et lecture. Quand l'œuvre est créée à Chicago le 16 décembre 1921, Prokofiev a 30 ans. Ce n'est pas un triomphe, mais pas non plus un échec. À propos du concerto, le compositeur constate que le public ne le comprit guère, mais le soutint tout de même. L'œuvre va connaître des hauts et des bas. Lors de la création new-yorkaise, par contre, c'est un fiasco total. Mais en avril 1922, le concerto est salué à Paris, à Londres et à Moscou. Alors ce concerto numéro 3, pourquoi est-il le plus abouti des 5? Eh bien sans doute parce qu'il allie tout ce qui fait de Prokofiev un grand compositeur, l'éclat, la brillance et le lyrisme. On voit que le compositeur connaît parfaitement son instrument et en exploite toutes les ressources. Peut-être que le concerto numéro 2 paraît plus spectaculaire que le numéro 3 aux yeux du public, avec son écriture novatrice et des passages périlleux, comme la longue cadence qui clôt le premier mouvement. Mais comme le soulignent certains musicologues, comme François-René Tranchefort, le troisième apparaît plus achevé et équilibré. De facture classique, il se compose de 3 mouvements. C'est d'ailleurs le seul des concertos de Prokofiev avec le numéro 1. Si ce concerto est si réussi, c'est peut-être aussi lié au choix de la tonalité de Do majeur. Le compositeur Francis Poulenc raconte que le ton de Do majeur a toujours été cher à Prokofiev. Je ne sais plus qui a surnommé Prokofiev le poète des touches blanches, mais c'est exact. Outre que ce ton correspond admirablement au jeu à ras du clavier de Prokofiev, il lui permet de surcharger ce ton blanc de vigoureuses harmonies bariolées. Les touches blanches sont indissociables de la tonalité de Do majeur, dont la gamme n'utilise en effet que les touches blanches du piano. Cette gamme, vous allez l'entendre, elle a un côté majestueux et solaire. Poulenc, encore lui, a travaillé le concerto numéro 3 aux côtés de Prokofiev, en jouant la partie d'orchestre au piano. Il raconte que Prokofiev joue tout droit, sans faux effets, avec une technique impeccable. Et en effet, dans ce troisième concerto, ça file. L'écriture rythmique est si complexe qu'on ne peut pas se permettre le moindre écart. Pour mieux s'en rendre compte, écoutons l'entrée du piano dans le premier mouvement. « Dans cet extrait, on peut remarquer le côté percussif du piano, qu'on retrouvera un peu plus tard dans les concertos de Bartok. Poulenc nous dit encore que les longs doigts spatulés de Prokofiev adhéraient au clavier comme une voiture de course à la piste d'un autodrome. Le rubato l'horripilait. La musique n'en a que faire, car lorsqu'elle s'attendrit au passage, et le plus souvent qu'on croit, elle le fait toujours dans la même pulsation rythmique. Pour Prokofiev, donc, pas de chichi, ni de guimauve. Mais cela n'empêche pas qu'on trouve quelques pages lyriques dans ce troisième concerto, à commencer par le duo de clarinettes qui ouvre le premier mouvement par une cantilène aux accents très russes. Dans son concerto, Prokofiev exploite toutes les couleurs de son instrument, ce qui est flagrant dans le deuxième mouvement, composé sous forme d'un thème suivi de 5 variations. Exposé par la flûte et la clarinette pendant 18 mesures, le thème est expiègle, frais et moqueur. Dans la première variation, on peut reconnaître un écho à la Rhapsodie in Blue de Gershwin, avec un tri dans le grave, suivi d'une ascension vers l'extrême aigu. Pour mieux se rendre compte, on écoute d'abord Gershwin. Puis, Prokofiev. La deuxième variation, quant à elle, plus percussive, plus martelée, peut nous rappeler le concerto pour piano numéro 2. Dans ce deuxième mouvement, on trouvera aussi des couleurs plus contemplatives, comme dans la quatrième variation, de caractère tranquille et planant. Après le numéro 3, Prokofiev écrira encore 2 concertos pour son instrument, composés à 1 an d'intervalle au début des années 1930. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. La version du concerto numéro 3 de Prokofiev utilisée ici est interprétée par le pianiste Julius Katchen, le chef Ernest Ansermet et l'orchestre de la Suisse romande. Cette version est à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et à l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.